marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Monsieur Valéry, d'abord, qui êtes-vous? Vos prénoms?
Mon prénom, c'est Gwenaël.
Breton.
Breton.
Et votre profession?
Industriel.
Gwenaël Bolloré, 1925-2001, le 6 juin et après.
Tout d'un coup, on a ouvert le capot et on nous a dit quelque chose qui voulait dire « c'est l'heure ». On est monté sur le pont, il faisait encore nuit, il y avait un silence total. On n'entendait rien. Et puis, le jour est monté relativement rapidement. Mais au début, on a vu, dans un silence total, une toute petite ligne qui était les côtes de France. Dans le silence total.
Il était l'un des 177 du commando Kieffer et il avait, le 6 juin, 19 ans. Alors aujourd'hui, le commando Kieffer est unanimement célébré. Il faut savoir toutefois que le général de Gaulle n'a pas décoré l'unité de la Croix de la Libération, volontairement. Certes, ces hommes avaient fait le choix de s'engager dans les rangs des forces françaises libres, mais une fois qu'avec l'accord du général, ils étaient devenus membres d'une unité spéciale britannique, leur commandement avait changé, il ne correspondait plus exactement à l'image que de Gaulle voulait donner de son combat. Qui plus est, les survivants, qui pour être passés sous la toise d'une rude formation, avaient gardé des individualités fortes, évoluèrent chacun à sa façon. Gwenaël avait ainsi débarqué avec son cousin, Marc Tubé. Celui-ci s'en alla vivre en Afrique, il ne soufflait généralement pas mot de ses aventures. Oncle Gwen, comme l'a appelé Vincent Bolloré, n'en faisait pas étalage non plus. Cependant, c'était un raconteur d'histoires, comme j'en ai rencontré peu, mais il pouvait préférer à la sienne, celle des berniques ou des crabes, dont il était un spécialiste internationalement reconnu, ou bien celle des sorcières et des eaux. Son répertoire breton était inépuisable. Gwenaël a écrit nombre de films naturalistes et même un très beau moyen-métrage de fiction, Les Naufrageurs, dont le rôle principal était tenu par sa femme et inspiratrice, Renée Cosima. La légende veut que pendant le tournage à Tronemen, on avait failli devoir faire venir des figurants sobres depuis Paris. Parce qu'on buvait beaucoup autour de Gwenaël quand il racontait. Il a écrit nombre de livres, il en a publié beaucoup aux éditions de la Table Ronde qu'il a dirigé de 53 à 88. Certains lui valurent des poursuites pour offense au chef de l'État. Il s'en tint en effet au discours de l'Algérie française, rompant avec le général, encore un signe du décalage entre le commando Kieffer et l'épopée gaulienne.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Nous sommes en Bretagne, à la pointe extrême de l'Europe. Les touristes ne connaissent pas la Bretagne. Ils n'en connaissent que les plages et les hôtels. Ils voient les ports, rapidement les jours de beau temps, et ignorent l'arrière-pays. L'arrière-pays, sauvage, moussu, rocailleux, accidenté, est habillé par une lumière humide qui vient de la mer. Cette source, c'est celle de l'Audet, fleuve côtier d'une soixantaine de kilomètres, qui irrigue la Cornouaille.
Extrait d'un des films de Gwenaël Bolloré. On peut tous les voir gratuitement sur le site de la Cinémathèque de Bretagne. Nous sommes donc sur les rives de l'Audet, à Erguet-Gabérit. Les Bolloré, une dynastie de papetiers, y ont installé leur usine. On connaît cette dynastie notamment pour sa marque OCB, Audet Cascadec Bolloré. Face à l'usine, une chapelle néo-gothique. On est catholique chez les Bolloré. Vincent vient encore récemment de sauver des eaux. Le vieil hebdomadaire La France catholique par conviction personnelle. Un manoir est accolé à l'usine. Quand une machine tousse, la famille réunie l'entend dans le grand salon et peut réagir. Le devoir pour les Bolloré, c'est de continuer la papeterie. Mais il y a d'abord l'honneur. Les Allemands insupportaient l'adolescent Gwenaël dès ses 15 ans et son frère, son cadet, sont prêts à passer en Angleterre. Mais comment? Alors heureusement, il y a Crevette. Crevette, c'est le nom du cheval que ses parents lui ont offert. Ça peut être une chance d'être né gosse de riche. C'est ainsi qu'il a titré ses mémoires de jeunesse.
Eh bien, cette aventure a malheureusement pour moi démarré par la vente de mon cheval, parce que j'avais un grand projet qui était de rejoindre l'Angleterre, et j'avais ce projet depuis déjà 2 ans. Alors à l'époque, j'avais 15 ans, c'était un petit peu difficile. Puis finalement, je suis tombé sur un réseau à Paris, et il fallait partir en bateau, et il fallait un petit peu d'argent pour acheter ce bateau. Et j'ai vendu mon cheval. Nous sommes arrivés à Carantec, après d'ailleurs quelques péripéties, chez Sibéril, qui avait un chantier. Dans ce chantier, il avait quelques vieux bateaux qui retapaient clandestinement.
Je me souviens bien du départ. Hein. Donc les gens arrivaient, certains étaient cachés à la maison depuis plusieurs jours. Et puis, bon, il y avait la préparation du bateau, il fallait que le bateau soit prêt. Il y avait les problèmes du temps, de la marée, on la choisissait, mais enfin le temps, le jour du départ, c'était difficile de le choisir. Il fallait des vents, en principe, de sud, quoi. Assez fort, un temps bouché pour qu'on ne voit pas le bateau partir. Alors, c'était difficile de réunir toutes ces conditions. Enfin, quand la plupart d'entre elles étaient réunies, ben, le départ se faisait.
Et il fallait embarquer très doucement. Il fallait se mettre dans le fond du bateau. Nous étions 9 dans le fond du bateau, plus un type admirable qui était le passeur qui sortait le bateau, qui nous a sorti à la godille. Et puis quand on a été en dehors des côtes, il a repris le petit canot qui était derrière et il est revenu. Lui n'avait pas fini. Et il en a fait plusieurs comme ça. Il y avait deux frères, les frères Leven, et à eux deux, ils ont sorti 15 bateaux comme ça. Et après ça, eh bien, c'était la nuit, c'était le très mauvais temps. Parce qu'au départ, dans la baie de Carantec, la mer était calme, mais après, on avait des vents de sud, on avait des forces 7-8. Notre moteur n'est jamais parti, on a coffré un grand paquet de vagues, le moteur a été noyé, et puis on a mis le foc et la grand voile. La grand voile s'est déchirée, et on est parti pour l'Angleterre uniquement sur le foc. On a mis 36 heures. Nous sommes partis le 6 mars, je suis arrivé le 8 mars. On m'a appris que mon frère était arrivé avec un de mes cousins. C'était une très grande surprise pour moi. Et là, on nous a amenés directement à la police. Et on a couché notre première nuit dans une cellule avec des barreaux. Et le lendemain, il y a 2 inspecteurs qui nous ont amenés dans un camp de triage qui s'appelle Patriotic School. Et là, on a passé 8 jours. Et pendant 8 jours, on a été interrogés. Et d'où vous venez? Qu'est-ce que vous avez fait? Etc. Parce qu'évidemment, il y avait des agents allemands qui essayaient de s'infiltrer en Angleterre. Et puis, bien au bout de 8 jours, on a été considérés comme dédouanés. Et on nous a remis dans la vie civile.
Gwenaël, il n'est pas venu en Angleterre pour rejoindre la vie civile dès le printemps 43. Le voilà engagé dans les forces françaises libres. À Londres, il retrouve beaucoup de Bretons, notamment les légendaires pêcheurs de l'île de Sein, ses voisins, qui l'hésitent les soirs de liberté à accompagner dans leur mémorable bordée. Le capitaine Kieffer recrute alors parmi les Français libres ceux qui souhaiteraient s'engager dans un commando de marine de haute voltige rattaché à la première brigade spéciale britannique. Gwenaël se met sur les rangs. Et c'est sous l'uniforme britannique avec le béret vert qu'il débarque à Ouistreham. Il est infirmier, bientôt le seul à pouvoir soigner les hommes du commando. Nous voici maintenant en 65, 20 ans plus tard. Il est le premier invité d'une émission de télévision qui cherche déjà à faire se retrouver des personnes qui se sont perdues de vue. Elle est intitulée « Le rendez-vous des souvenirs » et animée par Marine Lagray.
Monsieur Valeret, d'abord, qui êtes-vous? Vos prénoms?
Mon prénom, c'est Gwenaël.
Breton.
Breton.
Votre âge?
39 ans.
Et votre profession?
Industriel.
Et maintenant, dites-nous qui vous recherchez?
Eh bien, je recherche un enfant que j'ai vu le 6 juin 44 à Binouville et à qui j'ai donné un petit pingouin en peluche.
J'aimerais que vous poursuiviez votre histoire à vous. Vous avez donc débarqué le 6 juin. Et puis?
Et puis, alors après, nous nous sommes regroupés et nous sommes partis à l'intérieur des terres pour passer Pegasus Bridge, c'est-à-dire pour traverser l'Orne.
Vous racontez cela comme si c'était une promenade. Il y a eu quand même des morts et des blessés.
Oui, il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés.
Que faisiez-vous exactement? Votre grade, votre emploi?
Mon emploi, moi j'étais infirmier. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de travail, d'abord parce que notre médecin, le docteur Lyon, a été tué dès le 6 juin et que l'autre infirmier a été blessé et évacué.
Vous restiez seul.
Et je restais seul pour soigner un certain nombre de camarades, d'autant plus que le médecin anglais avait été également évacué.
Combien êtes-vous resté après à la fin de ce jour le plus long des 177 Français
À la fin, je pense que nous étions la moitié. Pour toute la campagne, nous avons été 25 à ne pas être blessés, j'ai eu cette chance.
Nous nous en réjouissons. Alors, vous êtes arrivé à Bénouville.
Nous sommes arrivés à Bénouville et là, la tête de la colonne s'est fait accrocher par une patrouille allemande. Et nous sommes rentrés pour nous mettre à l'abri, parce qu'il y avait des mortiers qui tiraient, dans une maison. Et là, un enfant, enfin, disons un gosse, qui était assis par terre et qui pleurait. Et ça, c'était quand même très important, parce que jusqu'à présent, c'était l'apocalypse. Nous avions vu des morts, mais ceux qui n'étaient pas morts étaient des gens qui étaient chargés de donner la mort. Enfin, il y avait une sorte de complicité entre les deux catégories de vivants, ou de vivants et de morts. Et tout d'un coup, un enfant qui pleure, et ça, c'était quand même très important pour moi. Et alors, il se trouvait, par un hasard, que j'avais un petit fétiche, un pingouin en peluche, que j'avais ramené de France, enfin, auquel je tenais pas mal, mais quand j'ai vu ce petit gosse, je lui ai donné le pingouin, et c'est une des choses qui m'a fait le plus plaisir, bien entendu moins que de mettre le pied sur le sol français, mais après, c'est peut-être la chose qui m'a fait le plus plaisir.
Vous avez redécouvert la tendresse humaine.
C'est ça.
L'appel lancé par l'émission de Marine Lagrée a fonctionné, on l'a retrouvé l'enfant, grandi. Que cherchait Gwenaëlle Bolloré.
Monsieur ?
Madame Claudine Descure ?
Oui, monsieur.
Étiez-vous à Bénouville au moment du débarquement ?
Oui, monsieur.
Est-ce à vous qu'un soldat français a donné un petit pingouin ?
Un pingouin ? Oui, monsieur, oui.
Vous avez le sourire, monsieur Bolloré. Eh bien, vous voyez, notre film est terminé. Notre enquête aussi. Nous sommes de retour au studio du Moulin de la Galette en direct. Vous avez vu que votre petit gosse pingouin était en réalité non pas un petit garçon, mais une petite fille qui apparemment est devenue une charmante mère de famille. Vous n'en avez aperçu qu'une silhouette, c'est exprès, parce que nous voulions que vous ayez le plaisir de la rencontrer pour la première fois maintenant. En direct. Elle est là, tout près. Je vais aller la chercher. Auparavant, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou à me demander ?
Non, simplement confirmer un peu cette surprise, parce que je m'attendais à un petit garçon, et c'est une petite fille. Mais enfin,
c'est une petite fille qui est devenue grande. Je vais la chercher, monsieur. Madame Descure ? Monsieur Bolloré, Claudine Descure, asseyez-vous là. Maintenant, je vais vous laisser à vous, monsieur Bolloré, le soin de poser les questions.
Eh bien, évidemment, je suis un petit peu étonné, mais enfin, je pense que l'âge était une excuse pour moi, parce que vous étiez très jeune, vous étiez probablement m'être habillé avec des pantalons ou un sarrau, comme beaucoup d'enfants. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ce que vous pensiez, vous, comme enfant, car vous deviez être une des très rares petites filles qui ait vécu le débarquement. Alors, ce qu'ont fait les soldats, on l'a écrit partout, on l'a filmé, mais ce que pensait une petite fille, c'est autre chose. Et alors, ce qui se passait, est-ce que vous pensiez que la période normale, la vie d'un pays, c'était toujours comme ça sur le pied de guerre, ou est-ce que vous pensez que c'était une période un petit peu particulière ?
Naturellement, c'était extraordinaire, naturellement. De vivre ce jour-là.
Parce que les rationnements, pour un adulte, c'était un peu bizarre d'être rationné, d'avoir des tickets, d'être obligé de rentrer une certaine heure. Mais pour un enfant qui n'avait connu que ça, ça vous paraissait au fond normal ?
Oui.
Oui.
Oui, alors pour la première fois, quand j'ai, un soldat m'a donné une tablette de chocolat, ça m'a semblé extraordinaire. D'abord, je ne voulais pas la prendre.
Oui.
Parce que je n'avais pas l'habitude du chocolat, je ne connaissais pas le chocolat.
Vous pensez que ça pouvait être dangereux,
au fond. Oui, c'est ça.
C'est ça. Et alors, la nuit du 5 juin au 6 juin, vous avez dormi paisiblement, probablement. Non, il y avait du bruit.
Oui, naturellement. Il y avait les planeurs, toutes ces choses, les parachutistes. Alors, on regardait ça, naturellement, on trouvait ça très beau.
Vous avez regardé, alors vous avez ouvert la fenêtre et puis vous avez regardé
tout
le ciel.
Tout le monde était levé, tout le monde regardait, tout le monde était sur la place pour voir ça.
Il y avait les balles traçantes, il y avait les projecteurs, il y avait tout ça.
Oui.
Et les enfants aussi. Vous ne pensiez pas que ça pouvait être dangereux?
Eh bien non, sur le moment, non. Non. C'est après, naturellement, que nous avons vu les Allemands, nous avons vu les Anglais se poursuivre.
Et alors, est-ce que vous avez pensé, vers le milieu du jour, enfin, on vous a rentré un petit peu, je pense, dans cette maison, où moi-même je suis rentré quelques instants, et puis vous aviez dû voir des Allemands avant, après vous avez vu des Anglais, est-ce que vous êtes rendu compte que ce n'était pas le même uniforme, que c'était d'autres gens
Oui, parce que, premièrement, les grandes personnes parlaient, oh, mais les Allemands, ceci, les Anglais ont débarqué, alors, naturellement, nous avons remarqué plus ou moins, mais... Étant enfant, si vous voulez, moi je me rendais pas tellement compte.
Oui.
Je trouvais ça d'ailleurs amusant.
Oui. Ce qui fait qu'alors le soir du 6 juin, dans la nuit du 6 au 7 juin, vous n'avez pas eu de cauchemar, vous avez dormi paisiblement.
Ah oui, paisiblement non, parce qu'il y avait quand même la DCA, il y avait les combats. Mais sans ça, je n'ai pas eu de cauchemar.
Vous n'avez pas eu de cauchemar, et maintenant vous n'en avez plus.
Si vous voulez, j'ai quand même appris une chose qui m'a frappée, qui me reste. Ce sont les morts que j'ai vus. Si vous voulez, ça m'a frappée énormément sur le moment. D'abord, je suis rentrée chez moi, je pleurais. Mes parents m'ont rentré à la maison parce que je pleurais tout le long de la route. De voir tous ces morts, ça m'a fait quelque chose et d'ailleurs, ça me reste.
Oui, vous en avez vu plus que j'espère, vous n'en verrez jamais parce que...
Ce jour-là,
c'était...
Monsieur Bolloré, et vous ne vous intéressez pas au sort de votre père, hein?
Eh bien, c'était un peu le... Non pas le but de la recherche, mais évidemment, ce pingouin me tient à cœur.
Écoutez, je crois que le pingouin n'existe plus.
Il n'existe plus.
Non.
Mais c'est la destinée de tous les jouets, c'est d'être cassé.
Oui, je crois qu'il n'existe plus.
Voilà le soldat qui, au lieu de poser au héros, se met dans la tête de l'enfant. Il a fait 1000 métiers, Gwenaël. Il aurait pu être un excellent journaliste. Le souvenir du débarquement a peu à peu dissimulé celui des mois terribles de combats qui ont suivi en Normandie et dans l'Ouest avant que les Allemands ne finissent par lâcher prise.
Gwenaël Bolloré a donc fait partie de ces 177 commandos du réseau franco-américano-anglais qui débarquèrent ce jour-là. Il a participé à la campagne de Normandie.
Donc la campagne de Normandie, c'est quand même, et je crois que nous avons été les seuls à le faire, c'est 3 mois de guerre de tranchées. Parce que nous étions dans les marais normands, que nous protégions le flanc gauche de l'armée d'invasion, et que pendant 3 mois, on a vécu dans des tranchées avec des infiltrations d'eau et avec des myriades de moustiques qui venaient nous piquer. Nous avons été après ça en Hollande pour prendre les îles de Walcheren. Et à ce moment-là, on nous a ramenés en Angleterre parce que pratiquement sur les 3500 commandos qui avaient débarqué, nous étions 600. Donc nous avons été ce qu'on appelle en langage militaire refondus. Et on a refait un nouveau commando. Alors après ça, j'ai un ictère du foie carabiné. Je sors des commandos, je reste 3 mois couché, et après je suis démobilisé, on y arrive.
Vous retrouvez les membres de votre famille, donc à 18 ans, ils avaient eu aucune nouvelle ou...
Ah, je les ai vus quand je suis arrivé à Paris en septembre, mm-hmm. Oui.
Et vous considérez comment ?
Mon père est mort en 1935, alors malheureusement il n'a pas eu l'occasion d'avoir une opinion. Ouais. Non, je crois que l'ensemble de ma famille, et si vous pensez à ma mère... Était très fier, et encore qu'il ne savait pas du tout, parce que vous savez, à l'époque, tout le monde était résistant, tout le monde était chef de maquis, tout le monde était un héros, et nous, quand on disait on a débarqué en Normandie, ils disaient ah oui, c'est très bien, mais pour eux, ça ne représentait pas ce que je crois est la vérité.
Ah oui, le débarquement, bien sûr. Et il évoque d'un mot, Gwenaël, celui de Hollande, en plein mois de novembre 1944, avec le commando qui ferme, mais la geste de l'histoire française à laquelle ce débarquement n'appartient pas l'a complètement ignorée. Donc Gwenaël et son frère sont démobilisés, la mère est fière, la réputation de la famille est sauve, rehaussée même. L'été 45, d'ailleurs, les Bolloré invitent Léon Blum, à peine revenu d'Allemagne, à venir se reconstituer au manoir. Gwenaël aimait montrer la photo, le représentant sur le perron face à la chapelle. Et puis vient la nouvelle vie.
Je crois qu'il y a un phénomène de frustration, si vous voulez. Parce que je suis parti en Angleterre très jeune. J'ai pas eu le temps de lire, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. En Angleterre, bon, ben, on nous a appris des tas de choses, mais on nous a pas appris la littérature. Hein. Moi, la peinture, tout ça, quand j'arrive, je connais rien. Je suis le paysan du Danube. Mais j'ai pas eu de jeunesse. Hein. J'ai jamais eu de tout ce qu'il y a eu après, les surprises parties, les surboom, les surpètes, tout ce que vous voulez, j'ai jamais connu ça. Alors tout d'un coup, je me suis arrivé à Saint-Germain, il y a une sorte d'explosion littéraire, artistique à ce moment-là, après la guerre. C'est Saint-Germain, c'est Queneau, c'est Boris Vian, et il faut que j'apprenne. Je me suis intégré rapidement, mais j'ai été ébloui de voir les frères Jacques, Gréco, Boris Vian, Queneau, Dufilot. Et puis alors, ça c'était le côté un peu claquant. Mais j'ai fréquenté des écrivains de toute première grandeur. Je pense à André Breton, je pense à Henri Michaud, je pense à Sandra Ars. Et puis d'autres que j'ai pas en tête, mais enfin, en gros, y a que Gide que j'ai jamais rencontré. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, j'ai bien connu Cocteau puisque ma femme avait tourné dans Enfants terribles. Bon, il y avait Nimier, il y avait. C'est difficile parce qu'il y a tellement de noms qui me viennent en tête que. Donc, j'ai l'occasion de rentrer comme administrateur à la Maison Plomb. C'est là d'ailleurs où j'avais amené un manuscrit qui était celui de Boris Vian, qui était l'arrache-cœur, qui m'a été refusé. Boris Vian, il faut vous dire, n'était pas connu à l'époque. Il était connu comme joueur de trompette. Hein. Au point de vue littéraire, c'était pas grand-chose, mais ça m'a choqué. Et alors, il y a une petite maison d'édition que Plomb venait de racheter, qui s'appelait La Table Ronde. J'ai dit, bon, bah, écoutez, comme ça, moi, j'aime mieux aller à La Table Ronde, parce que ce sont des jeunes qui s'en occupent, et on s'entendra mieux. Et c'est comme ça que j'ai quitté Plomb et que je suis rentré à La Table Ronde comme d'abord comme actionnaire et comme administrateur et après comme président.
Alors beaucoup plus tard, la vente de la bibliothèque de Gwenaël témoignera de la qualité des liens qu'il avait avec l'équipage de La Table Ronde qu'il a dirigé pendant un quart de siècle. Bernard Franck, Antoine Blondin, Michel Déon, Jacques Laurent, Roger Nimier. Un équipage de briques et de broc assez proche, pour le dire par un euphémisme, de l'Algérie française. Mais il échappe aux définitions trop simples. L'ancien gaulliste qui a rompu avec le général, rien ne peut le prendre dans ses filets.
Il y a une formule dans la marine, c'est « bon à tout, propre à rien hein ». Effectivement, je crois que, pour ma satisfaction personnelle, j'ai fait un peu tout et c'était assez agréable. Mais j'aurais probablement fait quelque chose de plus positif si je n'avais fait qu'une chose, c'est certain. Faire du papier, être éditeur, écrire et être sonographe, c'est beaucoup de choses.
Gwenaël, homme aux vies multiples, aimait passer beaucoup de temps en mer. Son père, en 1924, avait acheté dans l'archipel des Glénans l'île du Loc, une île plus grande que l'île de Sein. Le père était chasseur. Gwenaël a préféré introduire là le plus possible d'espèces animales. Il a dû renoncer au kangourou à cause des méfaits des chiens des plaisanciers qui abordaient sur l'appontement de fortune de l'île. Il aimait beaucoup y pratiquer la pêche. Dans les courts-métrages naturalistes qu'il a tournés dans les années 50, depuis cette base, il en documente plusieurs formes. La pêche au requin pèlerin, à la façon de l'homme d'Aran, du grand Flaherty. Et ici, la pêche au vire-caillou.
À 9000, dans le sud de la Cornouaille, l'archipel des Glénans. C'est le lieu le plus poissonneux de l'Atlantique.
Les îles des Glénans sont le paradis de la pêche au vire-caillou. Les tourteaux sillonnent les bassins de granit où s'étale la dentelle des algues baroques. 12 pieds, oursins, étoiles de mer, crabes, anémones et araignées, animent ces flaques d'une vie grouillante. Les homards se cachent dans les moindres failles. C'est à la fois le monde de la grâce et du grotesque, de la violence et de la fragilité. Un monde où chaque forme, chaque couleur, chaque mouvement ont leur raison d'être. Un monde où rien n'est inutile ou gratuit.
Alors pour les campagnes maritimes plus lointaines que les Glénans, Gwenaël avait reconverti un chalutier en bateau océanographique. C'était un vieux rêve d'enfance et avec ce bateau, il rapportait des empreintes fossiles de dinosaures aussi bien que des espèces vivantes. Tout cela enrichissait un vaste cabinet de curiosités qui devint dans le domaine d'Hergé Gabérit un musée ouvert au public, le musée océanographique de l'Odet.
Alors quand on arrive au musée, il y a un grand bassin qui doit faire un petit peu près 15 mètres de long sur 5 mètres de large, où il y a eu des phoques, où il y a eu des oiseaux de mer, où il y a eu des poissons, suivant les saisons, et qui permet, si vous voulez, de faire un accueil assez agréable avant l'entrée dans le musée. Là, c'est une salle qui est un petit peu centrée sur les crustacés. Je vais vous dire que les crustacés, c'est un petit peu l'idée directrice du musée, parce que je suis carcinologue de formation, si vous voulez.
Dans cette salle, on trouve également, je crois, un de vos fils, entre guillemets.
Oui, alors là, il y a mon fils, mais alors il a proliféré, parce que maintenant, quand même, il y en a plusieurs exemplaires. Mais c'est un crabe que j'ai pêché en Mauritanie, lors d'une campagne, un pêche à la langouste, très exactement le long du Rio de Oro. Et c'est un crabe que j'ai pas pu bien déterminer. C'était un dromia. Il ressemblait beaucoup au dromia monodi, mais c'était pas un dromia monodi. Alors je l'ai envoyé au Muséum d'Histoire Naturelle. Et puis comme ce sont des gens pondérés, ils ont mis 2 ans à me répondre en me disant: Monsieur, ce crabe est une nouvelle espèce et nous sommes heureux de lui donner votre nom. Donc c'est le dromia bolori.
Et c'est ainsi qu'à force d'efforts et de recherches, Gwenaël, qui n'avait pas eu le loisir de passer son bac pendant la guerre, est devenu, en 1974, docteur S. Sciences. Allez au musée océanographique de l'Odet, dont les portes sont de nouveau ouvertes, et sur le site de la Cinémathèque de Bretagne, on trouve tous les films de Gwenaël Bolloré. Cette émission était préparée par Franck Olivard, à la réalisation Audrey Ripouille, la technique Ludovic Asselot. Mathieu Vidard, Gwenaël, c'était quelqu'un qui préférait les lauriers de la science aux rayons de la gloire. Comme vous, ça le laisse muet, le malheureux Mathieu Vidard, cette comparaison
voilà, je suis
avec
là, Jean,
le docteur Gwenaël Bolloré. Bonjour Mathieu.
Bonjour Jean. Oui, alors nous, dans un instant, c'est le club de la tête au carré, donc on se met en route, là, on s'installe.
Oui, je vois, lentement.